Bienvenidos al podcast Cocina tu barrio.
Cuisine ton quartier.
Cuisine au teu bairro.
Cuisine nan quartier avec nous.
Et tabahaye.
Cuisine quartier.
Cuisine nel tuo quartiere.
Et motbachna.
Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Atsa quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent, pour vous offrir ce grand parcours balado « Cuisine ton quartier ». Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre!
Bonjour, mon nom est Laurence Lefebvre-Beaulieu.
Bonjour, je m'appelle Neil Santamaria.
Bonjour, c'est Marie-Claire Ofagari.
Et bienvenue au balado Cuisine ton quartier.
Alors, la TCRI, la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, de son petit nom, est un regroupement national de 153 organismes communautaires qui accompagnent les personnes immigrantes dans leur processus d'installation au Québec. Ça peut être par différents services, employabilité, francisation, du jumelage interculturel, service de défense des droits. Donc, en fait, la TCRI, c'est la première table de concertation au Québec. Elle était d'abord montréalaise. Pendant près de 20 ans, c'était d'abord la TCMR, la table de concertation des organismes de Montréal au service des réfugiés. Donc, au départ, c'était exclusivement au service des personnes réfugiées parce qu'elle a été créée dans le contexte de l'arrivée des boat people, donc des personnes indo-chinoises qui ont été accueillies par les églises notamment et la collectivité. Donc, on a eu le début du parrainage des personnes réfugiées par la collectivité au tout début des actions de la TCRI. Notre directeur général actuel, Stéphane Reichold, était d'abord un bénévole pendant une dizaine d'années avant d'avoir vraiment un poste salarié pour diriger la table. Donc, la TCRI a fêté ses 40 ans en 2019, l'année dernière. Donc, c'est quand même 4 décennies de lutte pour la défense des droits des personnes réfugiées immigrantes, dans l'accès aux services, dans les programmes politiques, dans les services qui leur sont offerts. On a été récemment, comme à chaque année, mais récemment très mobilisés dans beaucoup d'enjeux dans l'actualité, que ce soit la réforme du programme, le PEC qu'on appelle, le programme d'expérience québécoise, dans la régularisation du statut des demandeurs d'asile travaillant dans les services essentiels, que ce soit aussi bon dans le programme de parrainage des réfugiés ou la question du racisme systémique. On travaille plutôt à accompagner nos organismes qui, eux, fonctionnent souvent avec l'aide et l'appui de nombreux bénévoles. Nos organismes sont partout, vraiment partout au Québec, de l'Abitibi à Côte-Nord, bas du fleuve, puis ils ont différents services, différentes tailles aussi. Certains sont très, très grands, ont beaucoup, beaucoup de services, certains sont plus petits. Mais c'est sûr que les bénévoles, pour eux, là, c'est une source inestimable, c'est sûr, d'une contribution. Puis, il y a aussi beaucoup d'organismes qui font du jumelage interculturel, donc qui jumellent une personne nouvellement arrivée avec une personne qui est ici de longue date pour vraiment l'accompagner dans son processus d'installation. Donc, ça peut vraiment faciliter l'accès aux services, la compréhension des façons de faire, beaucoup de petites clés de codes culturels qui sont échangés, puis des créations de liens, de réseaux. Un très beau programme.
Alors moi, je suis coordonnateur du volet parrainage de la TCRI. Et ce volet est un peu à part parce que c'est un des rares volets où on ne travaille pas forcément avec des membres, ni même avec des organismes, encore qu'on travaille aussi avec des organismes, mais avec des groupes de parrains. Et des groupes de parrains, ce sont des Québécois comme vous et moi qui décident de parrainer une personne réfugiée ou une famille réfugiée. Alors très souvent, ce sont des amis ou des personnes qui ont été rencontrées lors du parcours de vie. Mais ça donne vraiment la possibilité au Québec, c'est-à-dire quand je parle du Québec, je parle des Québécois, de s'impliquer justement et de pouvoir parrainer des personnes réfugiées. Et on a vu d'ailleurs qu'en 2015, avec l'arrivée des réfugiés syriens, c'est à ce moment-là que la ministre de l'immigration de l'époque, Kathleen Veil, avait relancé le programme de parrainage collectif, parce que c'est un programme qui s'appuie d'un côté sur des organismes, des OBNL ou des organismes un peu type religieux, comme disait Laurence tantôt, mais qui s'appuie aussi sur tous les Québécois qui veulent s'impliquer là-dedans. Et ça, c'est vraiment très intéressant dans le sens où ça n'est pas l'État qui va prendre en charge, c'est vraiment la population québécoise. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. Et puis au niveau de l'accompagnement, les personnes réfugiées, ce qui est bien, c'est que quand elles arrivent, elles disposent d'un réseau, le réseau des parrains. C'est super aussi pour prendre ses marques, parce qu'on peut poser toutes les questions, on va dire, qu'on n'oserait pas poser en temps normal à des personnes qui connaissent le Québec. Très souvent, quand ça se passe bien, ça fait des liens qui durent au-delà de la période de parrainage. Il y a le MIFI qui ouvre à date fixe le programme de parrainage. Mais ensuite, pour les délais de traitement, pour le moment, on parle de 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi. Donc c'est quand même assez long. Ce sont des personnes réfugiées et souvent qui vivent dans des conditions assez précaires. Donc normalement, il devrait y avoir une urgence à pouvoir les faire venir ici. J'inviterai beaucoup de Québécois, Québécoises tentés par l'expérience de ou bien prendre contact avec le volet parrainage de la TCRI pour savoir un petit peu comment faire, ou bien s'impliquer là-dedans, c'est-à-dire se renseigner puis voir si c'est quelque chose qui pourrait leur correspondre. Donc bien sûr, ils ne seront pas seuls, déjà c'est des groupes de 2 à 5, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de transformer un petit peu la vision que beaucoup de personnes peuvent avoir des personnes réfugiées. Pour sélectionner une personne réfugiée quand on n'en connaît pas forcément, à ce moment-là, j'inviterai les personnes à prendre contact avec moi ou avec les organismes de parrainage, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes qui sont incomplets ou qui cherchent encore d'autres membres. Et je sais que dans les organismes de parrainage, ils ont tout le temps besoin de bénévoles. Pouvoir s'appuyer sur des bénévoles, c'est vraiment vital pour eux. Donc ça serait une possibilité offerte à toutes et tous. Le but de la TCRI, c'est d'être un agent de transformation sociale et de concertation. Donc c'est deux mots, moi, qui me sont vraiment très chers. C'est-à-dire qu'on représente 150 membres, on représente aussi des personnes issues de la population québécoise. Et à ce titre, c'est très important de se concerter, de discuter pour pouvoir ensuite, quand on va discuter avec les institutions, avec le MIFI ou d'autres, pouvoir leur dire « voilà les besoins qu'on a observés ». Donc ça, c'est quelque chose de très important, en tout cas, je pense qui nous tient tous à cœur, c'est cet aspect un petit peu de transformation sociale et puis de faire remonter les réalités ou les besoins vers les institutions, vers ceux qui font les programmes, parce que c'est pas vrai que quand on fait les programmes, on n'a pas cette connaissance infuse de comment ça se passe pour les parrains, de comment ça se passe pour les personnes réfugiées. Et donc, c'est très, 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 très important de les remettre au centre, de remettre leurs paroles et leurs réflexions au centre aussi. Disons qu'il y a une histoire qui m'a vraiment, vraiment marqué, mais c'était au tout début de mon entrée en poste. Et bon, je peux en parler parce que il en a parlé publiquement, mais mon prédécesseur à ce poste, qui s'appelait Sylvain Thibault, lui, je sais que sa famille a parrainé justement en 79, donc l'arrivée des personnes réfugiées du sud-est asiatique, les boat people comme on les appelait, et que Sylvain avait 8 ans, et aujourd'hui ces personnes réfugiées sont sa famille, c'est-à-dire que les enfants qui étaient venus sont ses frères, les parents qui étaient venus sont ses oncles et tantes, et ça l'a tellement marqué que tous les postes qu'il a eu, à ma connaissance en tout cas, étaient en lien avec les personnes réfugiées. Pour moi, ça, c'est le plus bel exemple, justement, de comment ça peut marquer sur le long terme et comment, justement, on peut prendre conscience de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en s'engageant à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment quelque chose que je conseillerais à tous. Alors, encore une fois, c'est important d'être bien outillé parce qu'il y a parfois des parcours de vie qui sont très complexes. Mais, justement, à la TCRI, on est là pour accompagner les personnes, justement, qui se lancent dans cette aventure.
Marie-Claire Oufagari, je m'occupe de la formation des membres de la TCRI depuis 1995. Et la TCRI, dès 1979, ce qui est intéressant, c'est que les membres ont tout de suite identifié la question d'être préparés eux-mêmes par rapport à ceux qui arrivent comme essentiel. Donc c'est comme ça que ça a été le premier projet à la TCRI. Dans les politiques d'intégration du Québec, c'est stipulé que c'est une responsabilité partagée. Dans la première mouture, c'était bidirectionnel. On vient de changer récemment. Et la nouvelle politique, on parle des responsabilités partagées. Ça veut dire préparer ceux qui arrivent, mais préparer aussi ceux qui accueillent. Alors, le réseau de la TCRI, à travers le Québec, est impliqué dans la préparation, dans l'accueil de ces nouveaux arrivants, à travers tous les projets qui ont été énumérés plus tôt. Maintenant, là où le bât blesse, parce qu'on a oublié de préparer la société. Il y a des choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et l'immigration étant un enjeu de société, ça concerne autant les citoyens que les intervenants, que les gestionnaires, l'institutionnel, le communautaire et le politique. Et oublier de préparer les citoyens est quand même quelque chose qui est en train de nous poser des problèmes actuellement. Parce qu'en fait, si on n'a jamais immigré et qu'on ne travaille pas dans le domaine de l'immigration, ce qui nous reste, c'est ce qu'on entend dans les médias et ce qu'on entend aussi, malheureusement, des fois, de nos politiciens. Et ça, quelque part, vu que nous sommes une société où la diversité ne date pas d'aujourd'hui, il est essentiel pour la cohésion sociale et le vivre ensemble de continuer à l'investir. Moi, je pense à un coup de cœur qui m'a marqué. Le premier jumelage entre les aînés québécois et les nouveaux arrivants est né d'un constat. À l'époque, c'était au Centre social d'aide aux immigrants. La responsable s'était rendue compte que les aînés connaissent très bien l'histoire du Québec. Et en termes de transmettre, c'est des acteurs très importants, mais souvent on les oublie. Et elle avait vu que les nouveaux arrivants, quand ils viennent ici, souvent la partie qui est restée, c'est la partie des aînés. Et dans la lignée de leur trajectoire, la transmission des aînés est très importante. Donc elle s'est dit, en fait, pour la réciprocité, parce que là, c'est pas du parrainage, c'est du jumelage, donc sur un rapport horizontal et de réciprocité. Donc elle s'est dit, si nos aînés rencontrent les nouveaux arrivants, ils ont la posture de transmettre et de comprendre la société dans laquelle ils vivent, et ceux qui arrivent aussi vont se reconnaître dans le rôle de la légitimité de transmettre. Au début, je ne vous cache pas, vu la question justement de l'immigration qui est traitée de façon des fois pas nécessairement évidente dans nos médias, il y avait une résistance. Mais le fait d'être facilitatrice a permis que le premier couple qui a été jumelé est allé chercher les autres, au prix que ce projet a été le prix intergénérationnel des aînés du Québec. Et là, moi, ça m'a amené à voir ce que j'ai appris énormément. Et je comprends que dans la vie, on va apprendre tout le temps. Et je crois que l'immigration est un rendez-vous pour des apprentissages et de l'innovation vraiment dans tous les milieux. Toutes les adaptations que nous avons aujourd'hui à la TCRI viennent de ceux qui, au quotidien, rencontrent ces nouveaux arrivants. Comme le disaient mes collègues, en fait, à partir du moment où ceux qui arrivent vont rencontrer les nouveaux arrivants, ils nous interpellent sur les défis. On sait très bien, actuellement, avec tout le contexte où on parle de la discrimination et du racisme systémique, c'est qu'effectivement, il y a des obstacles structurels et systémiques, et c'est une des raisons pour lesquelles, au niveau de la TCRI, en plus d'être dans l'action communautaire autonome, on s'est défini effectivement comme avion de transformation, et c'est clair que la défense des droits fait partie de nos éléments de positionnement. L'autre élément qui est aussi essentiel, c'est l'approche interculturelle. C'est-à-dire que ceux qui arrivent n'ayant pas les repères d'ici sont souvent perdus par rapport à nos façons de faire. Et nous qui accueillons dans la société d'ici et toute la, quels que soient les acteurs, aussi les repères de là-bas. Donc ce qui fait que s'il n'y a pas de facilitation de ces interactions, on se retrouve avec des interactions qui sont en impasse et des interventions qui sont souvent bloquées. Donc ce qui amène les intervenants aux formations, c'est souvent justement la volonté de faciliter et de créer des espaces, en fait, des dialogues réels. Et je dirais que aujourd'hui, je peux affirmer que tous les milieux qui n'adaptent pas, malheureusement, excluent.
Et là-dessus, on peut voir, par exemple, que ce soit les luttes pour l'alphabétisation, la littératie, qui ont bénéficié à tous, les luttes pour les droits des femmes, etc. Il y a toujours eu un impact positif pour le plus grand nombre. Et je pense que Marie-Claire l'a très bien dit, à partir du moment où on met en lien, où on met en réseau, où on rend la concertation possible, là, on va avoir des pratiques qui seront vraiment adaptés, qui seront vraiment justes. Et ça, c'est quelque chose que je vois particulièrement avec le milieu du parrainage, c'est-à-dire les groupes de parrains vivent un isolement souvent incroyable parce qu'ils n'ont pas de réelle représentation. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui étaient un petit peu livrées à elles-mêmes, qui ne savaient pas comment, ne serait-ce que comment déposer une demande de parrainage. Et c'est intéressant parce qu'à partir du moment où justement on a commencé à se dire, voilà, on peut passer par la T-Série justement pour se rencontrer, pour échanger, etc., il y a tout de suite eu des idées, des propositions très concrètes qui sont sorties. Et vraiment, ce qui me motive, c'est que à partir du moment où on se met en lien, on a forcément des idées beaucoup plus justes, des pistes d'action beaucoup plus intéressantes, et que c'est des choses justement qui vont bénéficier à l'ensemble de la société québécoise. Donc moi, je pense que oui, ce point-là est vraiment central.
Ouais, un peu dans la même lignée que ce que disent mes collègues, je dirais que ce qui est vraiment intéressant de voir en ce moment, c'est à quel point les luttes peuvent être portées par une diversité d'acteurs. On voyait au printemps, lors des propositions de réforme du programme de l'expérience québécoise, où on avait différents secteurs qui se sont unis pour manifester un peu contre les éléments qui étaient... qui ne répondaient pas aux droits des personnes, qui étaient un peu rétrogrades là, pour les personnes qui appliquaient. Donc, on avait des gens du milieu universitaire, des étudiants, des milieux syndicats, des travailleurs, la société civile. Donc, les luttes commencent à rejoindre plus de monde. Puis même pour la régularisation des travailleurs, du statut des travailleurs essentiels. Dès qu'on est en contact avec une personne qui peut vivre un parcours d'immigration, que ce soit forcé ou non, on est de plus en plus sensibilisé. Donc, il y a de plus en plus de gens, je pense, qui commencent à avoir un contact ou deux contacts, puis à se sensibiliser, puis à se sentir préoccupés par nos luttes. C'est sûr qu'il y a énormément de positifs, mais il y a aussi des discours qui peuvent être de plus en plus fermés, polarisés, réducteurs. Il y a de la banalisation de la haine, une certaine déshumanisation des fois des personnes réfugiées dans leur parcours. Puis dans l'accès aux services, on le voit beaucoup. Donc, on pourrait en parler longuement là, du fait que, c'est ça, non seulement ils n'ont pas nécessairement accès à services de santé, s'ils ont des fois c'est les enfants qui sont nés ici de parents en processus de régularisation de statut qui n'ont pas accès aux soins de santé, des accouchements qui peuvent être une énorme dette pour une personne qui arrive ici, ou encore lorsqu'on a accès aux services mais qu'ils ne sont pas adaptés, qu'on n'a pas accès à des interprètes, on peut difficilement comprendre les interactions qu'on a avec les professionnels de la santé, puis c'est pas toujours sensible non plus à notre réalité. Donc, c'est sûr qu'il y a des belles batailles qui ont été gagnées, puis il y a encore beaucoup de chemin à faire aussi dans l'accès aux garderies pour les enfants de demandeurs d'asile. Si on souhaite que les parents puissent travailler puis s'intégrer à la société, se faire un réseau, bien évidemment, ça passe par l'accès aux garderies. Mais c'est ça, je dirais que c'est... beaucoup dans la polarisation des discours, autant on en entend des très beaux, autant il y en a qui peuvent être très nuisibles.
Je pense que pour les 40 prochaines années, ce qui m'importerait beaucoup, c'est qu'on reconnaisse enfin qu'on a tous un rôle à jouer dans la société québécoise et que c'est pas en fonction du statut, parce que j'ai l'impression que plus le statut est précaire finalement, et plus le potentiel de chaque personne a vraiment du mal à s'exprimer. Je parle de l'emploi, mais pas que, évidemment. Et finalement, le fait de précariser les statuts et puis de mettre des difficultés juste pour arriver à survivre, c'est un gâchis de potentiel énorme. Et je pense qu'on l'a vu, alors avec les travailleurs essentiels, mais on peut aussi même se replacer avant l'exposition universelle de 67, quand Montréal n'était pas aussi diversifié qu'aujourd'hui. Et puis on voit assez facilement finalement tous les apports, toute la diversité, toute cette culture, toute cette richesse à tous les niveaux finalement que connaît Montréal aujourd'hui, et que Montréal aujourd'hui est une mégalopole et les immigrants y ont contribué grandement. Mon souhait, mon rêve serait vraiment que, peu importe le statut, tout le monde ait accès aux mêmes choses et aux mêmes opportunités.
Le potentiel qu'il y a, il ne faut pas le gaspiller, passer à côté. Il y a des rendez-vous qu'on ne devrait pas rater. Et je crois que l'histoire est essentielle. Que ce soit l'histoire de la société dans laquelle les gens arrivent, mais l'histoire aussi de ceux qui arrivent et de ceux qui ont bâti. Moi, un des exemples que je trouve extraordinaire, je me dis qu'il devrait nous inspirer, c'est que les infirmières qu'on a dans nos hôpitaux, s'il y a un endroit où il y a une grande diversité, c'est dans l'équipe des infirmières. Mais pour que ça soit possible, il a fallu que le ministère de la Santé, le ministère de l'Immigration, l'Ordre des infirmiers, les organismes communautaires, à l'époque le comité d'adaptation de la main-d'œuvre immigrante, se mettent ensemble pour dire « nous avons du monde qui ont travaillé dans ces domaines et si on crée des projets qui permettent qu'ils mettent à niveau pour qu'ils puissent redéployer leur savoir-faire dans cette société, ça serait gagnant pour tout le monde ». Devinez quoi, ça s'est fait et ça a été extraordinaire. Ça a été un pilote au départ, avec un organisme communautaire impliqué, avec un cégep impliqué, puis ça a été un succès. Et là, aujourd'hui, c'est surprenant de voir que l'histoire se répète et qu'on oublie. Et c'est pour ça que je me dis que documenter ces initiatives porteuses permettrait de ne pas réinventer la roue.
Et la peur est un levier très très puissant, et justement, mettre la peur, c'est justement le plus gros obstacle, parce que après il faut défaire ces choses-là, et parce que quand on a peur, on n'a pas forcément envie de rencontrer l'autre. Il faut déjà être préparé, il faut déjà être disposé à le rencontrer. Et donc il y a déjà ce travail à faire en amont pour que la rencontre ensuite puisse se faire, et justement que l'échange puisse se faire de manière non seulement sécuritaire, mais déboucher sur quelque chose.
La TCRI est actuellement en train de se refaire une image, donc peut-être qu'au moment où on va sortir le balado, on va avoir notre nouveau site web, on va avoir nos réseaux sociaux, puis on est en train de bonifier notre programmation pour nos membres. Donc, on vous invite, si vous êtes à Montréal ou à l'extérieur, à aller consulter la liste de nos 153 membres sur notre site web pour voir si jamais ça vous intéresse de les approcher, en savoir plus ou vous impliquer. C'est certain que ça va leur faire plaisir.
Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.